Bruno Coleman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef économiste de la banque de Groove Peter Kam. On va parler avec vous de macroéconomie hein, et de perspectives. Avant cela, si vous voulez bien, parlons un peu des 10 ans de la faillite de Lehman Brothers. Hein. Il y a 10 ans, effectivement, il y avait cette faillite qui a entraîné un choc financier et économique. Est-ce que 10 ans après, on a tiré les leçons de cette faillite, selon vous?
Oui, on a tiré les leçons de la prudence. À l'époque, je dirigeais la bourse de Bruxelles, donc j'ai pu voir in casu ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'était en fait le transfert volontaire d'un risque systémique des États-Unis vers l'Europe, puisque suite à l'augmentation des taux d'intérêt entre 2004 et 2006 par la Federal Reserve, la banque centrale américaine, les banques américaines se sont rendues compte que ces pays, ces prêts, pardon, allaient exploser, et donc les ont emballés. Ils ont vendu à l'étranger et bien sûr, quelques années plus tard, c'est explosé en Europe. Mais donc aujourd'hui, la prudence est respectée dans les banques et surtout les banques sont attentives à ne pas mettre en œuvre de risque de concentration. La seule concentration dans leur bilan, ce sont aujourd'hui des dettes publiques, essentiellement européennes. Et donc si un jour un problème se passe dans un bilan bancaire, c'est par les dettes publiques.
Alors, comme toujours, 10 ans après, on se dit les risques, ils ont été voilà, logés ailleurs, ils sont à certains endroits. À un moment donné, on avait évoqué les crypto-monnaies. Bon, on a vu ce qui s'est passé depuis, il y a quand même une chute spectaculaire des plus célèbres d'entre elles. Mais on se dit toujours, voilà, où est le risque? Alors, on a parlé de dettes aux États-Unis, du côté des étudiants, certains parlent de CDS synthétique. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où est le risque principal?
Le risque, il est dans l'endettement global, qui atteint plus de 220% du PIB mondial, à concurrence d'à peu près un tiers pour des dettes publiques et deux tiers pour des dettes privées. Il est dans l'endettement des ménages, qui dans certains pays dépasse une année de PIB. Et donc, cet endettement aujourd'hui n'est tolérable que parce que les taux d'intérêt sont faibles, et ils sont maintenus faibles au bénéfice des États par les banques centrales. Mais si d'aventure les taux d'intérêt montaient parce que la prime de risque se raidit, parce qu'un événement géopolitique se met en œuvre, ça pourrait bien sûr affecter des ménages, des entreprises ou des États qui sont plus fragiles. Mais je ne sens pas aujourd'hui ce mouvement se concrétiser, sauf de nouveau un retournement de cycle ou un événement qui est impromptu.
On voit tout de même aux États-Unis, quand on regarde le 10 ans, effectivement, à 2,8 et des poussières, il y a eu quand même cette montée. Mais on voit bien qu'il y a un débat, typiquement, entre le président Donald Trump et la Réserve fédérale. Alors, les marchés font confiance à la Réserve fédérale, mais avec aujourd'hui l'importance du politique, on peut quand même se poser des questions.
J'ai jamais été très convaincu de l'indépendance des banques centrales, mais en tout cas aux États-Unis, c'est très clair. Trump met en œuvre des barrières tarifaires pour limiter les importations. Il veut stimuler les exportations par un dollar faible. Il est donc tout à fait probable que la Federal Reserve ne va pas augmenter autant qu'elle ne puisse le faire les taux d'intérêt pour satisfaire les besoins de Trump avec un dollar faible. Donc l'année prochaine, on assistera peut-être à une augmentation de taux d'intérêt, sans doute pas plus. D'ailleurs, on voit aujourd'hui des risques d'inversion de la courbe des taux aux États-Unis, ce qui est un signe potentiel de récession. Si cette récession ou cette fin de cycle se concrétisait, évidemment que la Banque centrale américaine, la Fed, baisserait ses taux d'intérêt. Donc on n'est pas du tout, je crois, dans une rafale de hausse de taux d'intérêt aux États-Unis.
Justement, on sait très bien que une hausse de taux, l'impact effectivement prend plusieurs mois, on dit en général 6 mois. Donc si la Réserve fédérale américaine n'a pas monté suffisamment ses taux, elle aura plus tellement de munitions. On ne parle pas même pas de la BCE d'ailleurs pour l'instant, mais la Réserve fédérale risque de ne pas avoir autant de munitions que souhaité.
C'est correct. En même temps, les États-Unis sont quasiment en plein emploi, l'inflation est faible et la Fed a augmenté ses taux à 6 ou 7 reprises depuis la normalisation monétaire. Je crois que ces pas d'augmentation peuvent être dénoués assez rapidement. Mais donc, je crois que la Federal Reserve sera plutôt attentive à ne pas augmenter ses taux plutôt qu'à vouloir les baisser de manière volontariste.
Alors, le sujet de l'inflation, c'est vrai qu'il a été complètement éludé, on n'en parle plus, personne n'en parle, mais ça aussi, on peut se poser des questions à ce sujet-là. Est-ce que on ne fait pas une erreur en mettant ce sujet de côté?
D'abord, on mesure peut-être mal l'inflation parce qu'on ne tient pas compte notamment du commerce digital, mais je crois qu'on doit réaliser qu'un facteur maintenant submerge les théories classiques qui ont toutes été établies en période de démographie positive, c'est le vieillissement de la population. Et on constate dans certains pays qui le vivent de manière plus concrète comme le Japon, une augmentation de la propension à épargner avec l'âge. Ce qui veut dire que plus on est âgé, plus on épargne, moins on consomme, moins on investit. Et donc ce phénomène est peut-être transversal à tous les scénarios économiques. Et peut-être, je dis bien peut-être parce qu'aucune étude scientifique maintenant ne peut le démontrer, est peut-être à une des raisons du manque d'inflation. En fait, les banques centrales ont abandonné cet objectif d'inflation qui avait été fixé forfaitairement à 2%. et en particulier la Banque Centrale Européenne, qui a fait son deuil d'un objectif d'inflation, puisqu'elle arrête son programme d'assouplissement quantitatif, pardon, malgré le fait que l'objectif ne soit pas atteint.
Alors là, c'est plus effectivement le regard des investisseurs sur les marchés financiers, mais quand il y a une divergence entre la politique monétaire aux États-Unis et ce que la Banque Centrale Européenne, ils se souviennent du temps de la Bundesbank, de ce qui se passait, et les marchés n'aimaient pas ça, cette divergence. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, que on continue effectivement même à un rythme pas élevé la hausse de taux aux États-Unis, et puis qu'en Europe, on en soit encore loin?
Oui, il y a peut-être un risque de divergence, mais je crois qu'il est moins important qu'auparavant parce que l'économie est globalisée aujourd'hui et que donc c'est plus tolérable que ça ne l'était. En plus, la zone allemande maintenant, c'est la zone euro, donc c'est bien plus large. Donc je crois que c'est moins inquiétant qu'on ne le pense. J'ai plutôt l'impression que les taux d'intérêt, une fois que la normalisation aura été aboutie, vont refléter la force relative des économies. Ça pourra entraîner quelques mouvements de capitaux, mais à mon avis, ce ne sera pas subversif comme augmentation, comme variation.
Alors, on parle beaucoup de populisme. Alors, on en parle aux États-Unis, on en parle aussi en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas, de ce point de vue-là, des changements à attendre, justement, sur par rapport à, même si on ne parle pas forcément d'austérité budgétaire, mais de contrôle budgétaire et de voir d'un seul coup, effectivement, dans certains pays, des dépenses, effectivement, publiques augmenter considérablement?
C'est possible. Certains pays, d'ailleurs, remettent en cause les critères de Maastricht. Qu'est-ce que c'est le populisme? C'est compliqué à expliquer parce que chaque pays a sa généalogie, mais c'est peut-être l'opposition de certaines populations européennes vieillissantes par rapport à un capitalisme anglo-saxon mondialisé qui aujourd'hui leur fait peur. Et peut-être que ce capitalisme anglo-saxon n'est pas adapté au tropisme européen et donc suscite des réactions qui sont maintenant populaires et qu'on qualifie de populistes. Ce qui se passe dans le sud de l'Europe, c'est que manifestement, la monnaie, l'euro, a été sauvée au détriment du chômage de ces pays. Et donc le capital, l'épargne du Nord, était en fait protégé, était rendu pérenne par le chômage du Sud, d'où des réactions notamment en Italie. Mais en même temps, dans la zone euro, les économies sont tellement interpénétrées et la Banque centrale est devenue tellement puissante, omniprésente dans la gestion des flux financiers, qu'il est peu probable que des manifestations tout à fait erratiques de la part d'un pays puissent se manifester.
On a vu beaucoup de chocs sur les marchés émergents avec ces variations de devises en Turquie et dans d'autres pays. Comment se présentent les perspectives économiques aujourd'hui? Est-ce qu'on a une vision assez claire ou est-ce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de possibilités de récession, notamment aux États-Unis, qu'est-ce qu'on voit sur les prochains mois?
Mais on voit d'abord un cycle boursier qui est le plus long qu'on ait jamais connu. On voit peut-être une fin de cycle, parce qu'il y a des cycles dans l'économie et certaines personnes revendiquent l'idée d'avoir maintenant un tassement économique aux États-Unis. On voit des économies qui ont été fondées sur des effets d'aubaine, notamment des taux d'intérêt bas, des économies émergentes qui sont en train non pas de sombrer, mais en tout cas d'avoir des difficultés. Et ce sont les économies qui sont le plus exposées en devises étrangères. Je pense à l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil dans une certaine mesure, l'Afrique du Sud. Mais c'est une économie, à mon avis, je pense que s'il n'y a pas d'augmentation des taux d'intérêt violente, si la prime de risque ne se raidit pas, si la guerre commerciale et monétaire entre la Chine et les États-Unis ne s'aggrave pas, ça pourrait être malheureusement le cas, je ne pense pas que nous ayons une économie qui soit très différente dans un an de ce qu'on a maintenant.
Merci Bruno Coleman d'avoir fait le point avec nous.
Merci beaucoup.